Nous avons vu la dernière fois quels sont les enseignements du premier chapitre de la Genèse et nous avons abordé ceux du second chapitre. Alors je pense que pour nous rafraîchir à tous la mémoire, il n'est pas inutile que je relise le texte que nous allons considérer aujourd'hui. Nous devons poursuivre sur le second chapitre et également traiter du troisième chapitre. Alors j'utilise la version que j'avais préparée pour mon livre et je ne lis pas l'ensemble du second chapitre, mais en rappelant le verset 7, le Seigneur Dieu modela l'homme poussière du sol et il souffla dans ses narines l'esprit de vie et l'homme devint un être vivant. Puis en rappelant que le Seigneur a pris l'homme, l'a installé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder au verset 15, et il donna à l'homme cet ordre: de tout arbre du jardin manger tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en manges, mourir tu meurs. Nous continuons au verset 18, et nous irons jusqu'à la fin du chapitre 3. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et le Seigneur Dieu modela du sol toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux des cieux. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et tout nom que donnait l'homme pour un être vivant, c'était là son nom. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui soit un vis-à-vis. Le Seigneur Dieu fit tomber une profonde torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu construisit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la fit venir vers l'homme. Et l'homme dit, « Celle-ci, cette fois, os de mes os et chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car de l'homme celle-ci a été prise. » C'est pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une chair unique. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient aucune honte. Or le serpent était le plus astucieux de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, « C'est vraiment que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant bien et mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, mais que l'arbre était désirable pour procurer l'intelligence. Elle prit son fruit et mangea, elle en donna aussi à son mari avec elle, et il mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent du feuillage de figuier et se firent des pagnes. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu se promenant dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a fait savoir que tu es nu ? De l'arbre dont je t'avais défendu de manger, as-tu mangé ?» L'homme dit, « La femme que tu as placée avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ? » Et la femme dit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et entre toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu iras, et la poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mets hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci te meurtrira à la tête, et toi tu le meurtriras au talon. » À la femme il dit, « Abondé, je ferai abonder ta peine et ta conception. Dans la peine tu enfanteras des fils. » Vers ton mari te portera ton élan, mais lui dominera sur toi. » À l'homme il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine tu le mangeras tous les jours de ta vie. Des ronces et des chardons il fera pousser pour toi, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ton retour au sol, puisque tu en as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Et l'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car c'est elle qui est devenue la mère de tout vivant.
Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous quant à la connaissance du bien et mal. Maintenant, de peur qu'il n'étende la main et ne prenne aussi de l'arbre de la vie, et ne mange et ne vive à toujours. » Et le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol duquel il avait été pris. Il chassa l'homme, et il mit à demeure à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim et le glaive au moulinet de feu pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Nous considérons séparément, comme nous avons déjà commencé de le faire, le texte qui concerne la création et celui qui concerne la chute, comme on dit, la désobéissance de l'homme et de la femme. En ce qui concerne donc le texte sur la formation de la femme, au chapitre 2, nous avons déjà enregistré que la note dominante concerne l'identité de nature entre l'homme et la femme. C'est ce que nous avons observé la fois dernière. Il y a accord entre l'enseignement que le second chapitre nous donne et l'enseignement du premier à ce sujet, mais la chose est encore plus marquée dans le second chapitre sans doute. La différence entre l'homme et la femme, second point, est à peine suggérée dans le second chapitre. Dans le premier, elle est fortement mise en valeur par les termes qui ont été choisis. Mais dans le second chapitre, vraiment, le thème n'est pas très apparent. Il intervient seulement dans la différence de désignation homme et femme, ish et isha. L'usage d'un autre terme, une forme féminine, montre qu'homme et femme ne sont pas des individus identiques en tout point. Même si c'est la communauté de nature, os de maison, chair de ma chair, qui est mise en valeur, mais le second chapitre n'insiste pas davantage. Et l'idée de complémentarité qui était associée à la différence avec l'expression mâle et femelle, il les créa dans le premier chapitre, cette idée de complémentarité n'est pas non plus très fortement mise en valeur. Je pense qu'on peut la trouver dans le mot aide qui est employé. Je lui ferai une aide. Car la notion d'aide me semble être assez proche de celle de complémentarité. Mais je ne trouverai pas beaucoup plus sur ce point dans le texte du chapitre 2. Par contre, il y a un thème que le premier chapitre ne laissait pratiquement pas apparaître. Bien sûr, ce n'est pas une contradiction, mais c'est simplement un développement plus ample de la révélation biblique sur notre sujet. Mais il y a un thème que le premier chapitre ne laissait pratiquement pas apparaître et qui, je crois, joue un rôle important dans le second. C'est le thème que j'appellerais le thème de la dissymétrie. Le fait que l'homme et la femme, tout en étant posés l'un en face de l'autre, en quelque sorte, vis-à-vis, sont une aide comme son vis-à-vis, ne sont pas simplement symétriques l'un de l'autre, comme sont symétriques un objet et son image dans un miroir. L'identité de nature n'empêche pas, même s'ils sont tous les deux donc pleinement humains et séparés du domaine animal par leur humanité, l'homme et la femme ne sont pas dans un rapport de symétrie. Mais il y a une dissymétrie dans la structure de ce qui nous est raconté qui me semble frappante. Alors enregistrons les éléments principaux de cette dissymétrie dans le chapitre 2. La première dissymétrie, me semble-t-il, c'est celle de l'ordre. Ils ne sont pas créés en même temps. Mais l'homme a été créé, il a été installé déjà dans la relation fondamentale de son être, qui est la relation à Dieu. Et secondairement, la relation à la terre, puisqu'il a été déjà placé dans le jardin d'Éden, que les clauses de l'alliance entre l'humanité et son Seigneur sont déjà fixées. Ces clauses que l'on trouve au verset 16 et 17, de tout arbre du jardin, manger tu mangeras, librement tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et mal tu ne mangeras pas. Ce sont là les clauses de l'alliance, c'est déjà fixé, et c'est après qu'est formée la femme. Il y a là un élément de dissymétrie. Il n'est pas du tout rapporté que l'homme, que Dieu ait créé la femme comme, disons, une deuxième création de même style que celle de l'homme, de telle sorte qu'on aurait une sorte de symétrie. Et alors là, on touche le deuxième point. Elle n'est pas formée de la même manière que lui, non seulement au même moment et au même stade, en quelque sorte, du développement du plan de Dieu, mais elle est formée différemment puisqu'elle est prise de l'homme. Selon la très belle image du texte qui joue sur les mots avec côte et côté, elle est prise de l'homme et construite en femme par Dieu, ce qui veut dire qu'elle n'est pas, avec en plus la torpeur tombée sur l'homme, qu'elle n'est pas une simple extension de l'homme, qu'elle n'est pas une sorte, disons, de multiplication de ses propres cellules comme un appendice de l'homme. C'est une création distincte, mais cependant, elle est prise de l'homme, elle n'est pas prise de la terre comme l'homme l'est dans le récit, et ce qui est plus frappant encore, j'avoue que c'est en me préparant pour ce matin que j'ai perçu la force de cette différence, que je n'ai même pas soulignée dans mon livre sur ces chapitres. Et il n'est pas question pour elle de l'insufflation de l'haleine divine qui est si caractéristique dans le cas de la formation de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne participe pas du privilège de l'esprit insufflé par Dieu, mais si elle a ce privilège elle aussi, je crois qu'il faut le comprendre du seul fait que c'est une même nature qu'elle partage avec l'homme, d'après le texte. Si elle l'a, c'est parce qu'elle est prise de l'homme, en qui Dieu a insufflé son haleine vivante, d'après le verset 7, ou son esprit de vie, d'après le verset 7. Et ça fait un élément de dissymétrie qui est particulièrement frappant, parce que, disons, le récit aurait très bien pu aller de la manière suivante. Dieu a pris le côté de l'homme, et puis il a insufflé un esprit de vie, et la femme devint un être vivant, par exemple. Et ça, cet élément-là, qui aurait fait symétrie, n'est pas là, est absent. De même, nous aurions pu avoir, et puis Dieu dit à la femme, de tout arbre du jardin, mangez, tu mangeras, etc. Ce n'est pas répété. Étant prise de l'homme, elle se trouve, disons, déjà sous le régime qui a été institué alors qu'elle n'était pas là. Élément qui me semble un élément de dissymétrie assez frappant. Il y a ensuite d'autres éléments. Il y a le fait qu'elle ne parle pas dans ce récit, alors que l'homme a la parole, qu'il la salue et qu'il déclare, décide quel sera le nom qui sera donné. On l'appellera femme. Alors que rien de réciproque, selon la loi d'une symétrie, ne se trouve enregistré. Et finalement, nous avons encore une dissymétrie au verset 24, dans le commentaire qui vise l'institution du mariage, pas seulement pour le premier couple, mais dans toute l'histoire subséquente. C'est pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Là encore, on aurait pu avoir une symétrie. On aurait pu imaginer que le texte dise c'est pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et une femme quitte son père et sa mère et s'attache à son mari. Or, ce n'est pas dit. Le texte a là une forme non symétrique. Alors, comment interpréter cette non-symétrie? Qu'implique-t-elle pour le sujet qui nous intéresse? En ce qui concerne les premiers éléments, certains ont voulu suggérer qu'ils impliqueraient plutôt une sorte de supériorité de la femme, en arguant des données suivantes. Le fait que la femme soit créée en dernier lieu, étant donné que dans l'ordre de la création que nous avons au chapitre 1er en particulier, c'est le plus excellent qui se trouve créé au bout du compte, que l'ordre que suit la création est un ordre ascendant, alors le fait d'avoir été créé en dernier lieu pourrait marquer que la dissymétrie privilégie la femme. De même, le fait d'avoir été prise de l'homme pourrait donner à la femme une sorte de supériorité sur lui, puisque l'homme a été pris de la terre et qu'il est supérieur à la terre. Si la femme a été prise de l'homme, il pourrait être persuasif de dire que la femme est établie dans cette non-symétrie au-dessus de l'homme. Et en troisième lieu, un point que je n'ai pas spécialement remarqué, commenté jusqu'à présent, le mot d'aide, qui a été souvent pris comme argument pour minimiser la valeur et le rôle de la femme, n'a pas cette connotation dans l'Ancien Testament. Plus souvent que le contraire, il y a les deux usages, hein, mais plus souvent que le contraire dans l'Ancien Testament, le mot aide désigne le supérieur. 15 fois sur 21, en fait, dans l'Ancien Testament, il est tout à fait, typique que le croyant dise à son Dieu, tu es mon aide, viens à mon aide. À ce moment-là, c'est Dieu qui est l'aide de l'homme, et bien sûr, alors, à celui qui est l'aide, s'attache la supériorité. Ce sont donc trois raisons pour suggérer que dans cette dissymétrie, il y a comme un avantage, une sorte de primauté, parce qu'on pourrait employer ce terme, qui appartiendrait à la femme. Cependant, je crois que ce n'est pas une conclusion vraiment rigoureuse du texte que ce que je viens d'expliquer, et je vais dire pourquoi ça ne me semble pas le cas. J'espère ne vexer personne, mais vous voyez, je crois qu'il faut que nous examinions tous les éléments du débat. Il me semble que les arguments que je viens d'évoquer négligent la façon particulière dont l'ordre nous est ici raconté, la prise de la côte de l'homme pour que Dieu la fasse en femme, et aussi la façon dont le mot « aide » est utilisé. On ne peut pas se contenter de dire très, très abstraitement ce qui vient en dernier lieu, c'est le plus élevé. Il me semble que ce qui apparaît dans le récit de Genèse 2, c'est que la femme n'est pas une créature d'un ordre différent de l'homme, qui donc, venant après lui, représenterait un degré de plus, plus élevé dans la courbe ascendante de la création, mais qu'elle nous est présentée comme le complément de l'homme dans son ordre même, à son degré. L'accent tombant précisément sur l'identité de nature, comme nous l'avons vu. L'homme est créé, il est installé dans le rapport à Dieu, et c'est pour la satisfaction d'un besoin de l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que la femme est créée. Ce qui me semble être une situation toute différente de celle de l'ordre de Genèse 1. D'ailleurs, nous sommes en Genèse 2, et dans Genèse 2, on peut remarquer que les animaux sont créés après l'homme. Dans l'ordre du récit de Genèse 2, nous ne voyons pas les animaux créés avant, mais après. Ce qui me semble montrer que dans Genèse 2, l'ordre suivi n'est pas l'ordre de la progression ascendante selon les divers types de créatures de plus en plus élevées. Donc, l'ordre lui-même ne me semble pas jouer le rôle dans Genèse 2 que lui assigne l'argument que j'ai évoqué tout à l'heure. En ce qui concerne le fait que la femme soit prise de l'homme, je crois de nouveau qu'on néglige un fait important, c'est l'insufflation divine. Précisément, l'homme est supérieur à la terre, dans le récit de Genèse 2, non pas parce qu'il est pris de la terre, mais parce qu'en plus, Dieu a insufflé l'esprit de vie en lui. Alors, il me semble abusif de dire simplement le fait d'être pris d'eux donne une supériorité. Cela ne correspond pas à ce texte. Et troisièmement, en ce qui concerne le mot aide, il me semble qu'on n'a pas le droit d'en tirer l'idée d'une infériorité quelconque. L'argument que j'ai cité tout à l'heure a au moins cette valeur durable d'écarter l'idée d'infériorité. Mais il ne me semble pas qu'on puisse non plus en faire une notion de supériorité, y attacher une notion de supériorité, parce que j'observe une différence avec les textes où c'est Dieu qui est l'aide du croyant. Dans le cas de Dieu, c'est un attribut, mais ce n'est pas la définition même de Dieu. Dieu existe avant, Dieu a sa place avant, et il n'est donc pas défini par rapport au croyant dans son être. Dans son être, il existe pour lui-même, avant tout. Et c'est après coup, donc, que le croyant lui dit « tu es mon aide ». Et dans le cas de la femme, de la formation de la femme en Genèse 2, c'est sa place, premièrement, qui est définie par la formule « une aide comme son vis-à-vis ». Pas seulement une aide, d'ailleurs, mais comme son vis-à-vis. Ce qui change les choses, ce qui fait que nous devons interpréter que l'être propre de la femme, dans la mesure où elle est femme et pas seulement être humain, est relatif à l'homme dans la dissymétrie de ce récit de Genèse 2. Et ça me semble donc être un point qui écarte tout à fait l'idée d'une sorte de primauté, puisque c'est la femme qui est définie par rapport à l'homme et non pas, dans ce texte, l'homme défini par rapport à la femme, par cette expression même d'aide. Donc, il me semble que l'argumentation que j'ai résumée ne peut pas être retenue, mais c'est plutôt une tendance inverse qu'on observe dans le texte. Et puis alors, il y a les deux autres éléments de dissymétrie qui me semblent suggérer que l'ordre dans le vis-à-vis de l'homme et de la femme est un ordre qui assigne ce qu'on peut appeler, me semble-t-il, l'autorité à l'homme plutôt qu'à la femme. Je ne dis pas que ce soit un contraste très durement présenté, mais il me semble quand même que ça ressort de ce texte. S'il y a une dissymétrie, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, il me semble qu'elle consiste dans ce qu'on appelle couramment l'autorité, le fait d'avoir la parole, de dire ce qui va se faire, de prendre des initiatives. Eh bien, ça, c'est plutôt rattaché au pôle masculin dans la dualité homme-femme de ce second chapitre de la Genèse. Premier élément, l'élément principal à mes yeux, le fait que l'homme donne son nom à la femme. Que lorsque la femme arrive, c'est lui qui a la parole et qui disent « celle-ci, on l'appellera femme ». Il me semble qu'il y a au moins trois raisons qui suggèrent que si c'est à l'homme de parler comme cela dans ce texte, c'est qu'il reçoit, disons, la vocation d'autorité, plus particulièrement. Première raison, eh bien, c'est que de manière habituelle dans l'Ancien Testament, le fait de donner un nom est un exercice d'autorité. Nous voyons cela en particulier dans le livre des Rois, à propos des souverains païens qui ont installé sur le trône à Jérusalem des princes qui étaient au fond leurs vassaux, et qui, pour manifester leur autorité, leur suzeraineté sur ces vassaux, ont changé leur nom au moment de les installer sur le trône. C'est le cas du pharaon Nécao en 608, lorsqu'il a mis sur le trône celui qu'il a appelé Joachim. Il ne s'appelait pas comme ça auparavant. Et c'est le cas de Nebuchadnezzar en 597, quand il a mis sur le trône celui qu'il a appelé Sédécias, là encore, qui ne s'appelait pas de cette façon auparavant. Joachim s'appelait Eliakim avant, et le pharaon donc a changé son nom un petit peu pour montrer, voilà, tu dépends de mon autorité. Et Sédécias s'appelait Matania avant, et Nebuchadnezzar a changé son nom en Sédécias pour marquer son autorité. Donc je crois qu'on peut dire que de manière générale, le fait de donner un nom est un exercice d'autorité.
Ça existe encore de nos jours.
Et je pense que finalement nous pouvons tous le ressentir assez facilement. Ça correspond.
L'homme d'acier.
Oui, mais alors c'est lui-même qui se l'est donné, n'est-ce pas? C'est lui-même qui se l'est donné. Mais c'est bien vrai, en changeant le nom des villes, par exemple, se manifeste l'autorité dans fort l'ami, eh bien, quand les Tchadiens sont devenus indépendants et ont manifesté l'autorité nouvelle qu'ils avaient sur leur propre destin en changeant en N'Djamena. C'est vrai, on le sent facilement. Deuxième raison, précisément dans Genèse 1, dans le texte préface du livre de la Genèse, le fait de donner des noms exprime l'autorité de Dieu, qui appelle la lumière jour, les ténèbres nuit, etc. C'est bien, semble-t-il, un exercice de seigneurie qui apparaît dans cette donation de noms par Dieu au premier chapitre. Et lorsque nous voyons l'homme donc donner un nom, il est, me semble-t-il, assez naturel de supposer que c'est justement son privilège d'être en image de Dieu qui se manifeste lorsqu'il décerne ainsi des noms. Et puis troisièmement, c'est très proche de ce second point, juste avant que l'homme donne son nom à la femme, son nom commun, pourrait-on dire, à la femme, au verset 23 ici, nous avons vu qu'il a donné des noms à tous les êtres vivants, à tous les animaux qui ont défilé devant lui. Or, c'est là précisément l'exercice de la souveraineté que Dieu lui a donnée, d'après le chapitre 1er, sur tous les animaux. Dieu lui a dit de les dominer, et nous voyons au chapitre 2 cette domination qui s'affirme, et comment s'affirme-t-elle ? Eh bien, par des désignations, par le fait qu'il donne des noms, et des noms qui sont les noms, alors à ce moment-là, puisqu'il en a le pouvoir, de ces différents êtres. Comme la présentation de la femme par Dieu est mise en parallèle dans Genèse 2 avec le défilé de tous ces animaux, il me semble très difficile de nier que le fait de donner un nom à la femme après avoir donné des animaux ne soit tout à fait séparé de l'idée d'autorité. Il me semble donc que le fait de donner ainsi le nom Isha à la femme marque dans la dissymétrie l'idée d'autorité. Alors je voudrais vous signaler que dans l'article de ce théologien australien que je vous ai déjà signalé, qui prend d'autres positions, il y a un effort pour essayer d'écarter cet argument. Bon, il n'examine pas tous les points que je viens d'évoquer, mais il essaie de dire quand la domination sur quelqu'un ou quelque chose doit être exprimée par le don d'un nom, alors une formule particulière est utilisée qui inclut à la fois le verbe nommer et le verbe appeler. Alors, comme ces deux verbes ne sont pas employés tous les deux dans le verset concernant la femme, ici au verset 23, il dit donc nous ne sommes pas dans le cas où le don du nom exprime l'autorité. Et alors, je crois que ce qu'il prétend n'est pas correct. D'abord, il y a cette incorrection qui dit qu'il faut que les deux verbes nommer et appeler soient tous les deux présents. En fait, il n'y a pas de verbe. Même pour les animaux, il n'y a pas de verbe. Il y a le verbe appeler et le nom, non. Le substantif, non. Alors déjà, il y a une première erreur dans un petit lapsus peut-être à propos de ce point-là. Mais surtout, d'abord, je crois que ce qu'il prétend là est incorrect. Le verbe appeler sous-entend qu'on donne un nom. Et si le mot « nom » n'est pas employé dans le texte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de nom donné. C'est, me semble-t-il, là une distinction subtile qu'il essaie de faire, qui n'est pas légitimée. Et j'ai fait des petites recherches, et j'ai relevé plusieurs cas où le don du nom, qui me semble bien exprimer l'autorité dans le contexte, n'utilise pas les deux. Contrairement donc à la phrase de ce Kevin Giles. Donc je crois que ce qu'il prétend là est incorrect. Le verbe appeler sous-entend qu'on donne un nom. Et si le mot nom n'est pas employé dans le texte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de nom donné. C'est, me semble-t-il, là une distinction subtile qu'il essaie de faire, qui n'est pas légitimée. Et j'ai fait des petites recherches, et j'ai relevé plusieurs cas où le don du nom, qui me semble bien exprimer l'autorité dans le contexte, n'utilise pas les deux.
contrairement donc à la phrase de ce Kevin Giles que je cite, Genèse 35, 18, son père l'appela Benjamin, le mot nom n'est pas employé, simplement l'appela, exactement comme dans le verset sur la femme. Et encore 1 Samuel 4, 21, Jérémie 33, 16. Donc je crois que cet argument donc, de Giles est une échappatoire, un faux fuyant devant l'argument sur la nomination. Puis alors vient le dernier point concernant la dissymétrie, cette initiative qui est assignée à l'homme au verset 24, un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Il ne me semble pas qu'on puisse dire que ce soit le reflet d'une coutume locale et temporaire seulement. C'est la seule façon d'essayer d'éliminer la portée de ce verset, parce que nous retrouvons cette formule citée dans le Nouveau Testament comme une formule caractéristique pour tout l'état conjugal dans tous les âges, et donc il ne me semble pas que nous puissions dire c'était là au deuxième millénaire une coutume particulière. Il me semble bien que la suggestion que nous avons ici, c'est qu'il n'en va pas tout à fait de même symétriquement du côté de l'homme et du côté de la femme. Ce qui n'interdit pas certaines initiatives féminines. Ces textes ne sont pas des textes, disons, comme des articles de code qui interdiraient. C'est pas ça. Mais des suggestions sur le sens d'une dissymétrie qui me semble impliquer donc que dans le rapport de l'homme et de la femme, il y a une attribution ou vocation, comme on voudra, d'autorité qui est plutôt rapporté à l'homme. Alors nous abordons maintenant le troisième chapitre, à moins que vous réalisiez que vous ne soyez pas d'accord du tout avec, bien que vous ayez autre chose vraiment à dire, pour nous aborder le troisième chapitre. Oui.
C'est que Adam a été créé le premier, naturellement, et Dieu emploie un processus lui-même qui a certainement une valeur. Il a créé des animaux qui ont décidé de prendre un peu. Mais la femme a été créée après les animaux. Première chose. Deuxième chose, pourquoi Adam cherchait-il parmi les animaux une compagne en somme? Est-ce qu'il l'a incité à rechercher une compagne pour les animaux? Dieu savait bien qu'il n'avait pas créé un animal qui puisse
être le pendant de l'homme, c'est ça. Oui, je crois que nous en avions un petit peu parlé la dernière fois, et je pense que je peux résumer à nouveau ce que pour ma part je pense à ce propos. Je crois qu'il s'agit de pédagogie divine. Bien sûr, Dieu savait tout ça. Il s'agit de pédagogie divine pour faire prendre conscience à Adam d'une part de ce qu'il ne peut pas se contenter pour combler ses besoins de communion des êtres qui sont sous sa domination, la terre, les animaux, etc. Et pour lui faire prendre conscience, donc du même coup, que lorsque Dieu lui donnera la femme, il s'agit d'un être de même nature que lui. Pour faire bien apparaître dans la conscience d'Adam la différence radicale entre la femme et ses êtres inférieurs. Je crois que c'est une pédagogie divine. Dieu n'en aurait pas eu besoin pour lui, bien sûr, mais pour Adam, c'était la manière de l'éduquer. Alors, en ce qui concerne le chapitre 3, il y a deux grandes données qui touchent notre sujet. La première, c'est le fait que la femme est tombée en tentation, la première. Et la seconde, c'est le contenu précis de la sentence que le Seigneur prononce à son sujet, au verset 16. Et c'est tout spécialement la deuxième partie de ce verset 16 qui est significative, que j'ai traduite « Vers ton mari te portera ton élan, mais lui dominera sur toi ». Je crois que ce sont là les données
principal de ce chapitre 3 pour notre sujet. En ce qui concerne le fait que la femme ait été tentée la première, il faut reconnaître que le texte ne nous explique pas quelle est la portée de ce fait. Alors certains ont brodé énormément. Très couramment, on a considéré que le serpent qui représente notre adversaire, le diable, l'adversaire de Dieu, le serpent s'est attaqué à l'être le plus vulnérable, le plus faible. Donc ça suggérerait une faiblesse de la femme. Et parfois certains ont précisé même en disant que c'est à l'égard des puissances occultes, des esprits mauvais, que la femme serait plus vulnérable, plus faible, moins bien défendue. Et chez beaucoup d'auteurs de l'Antiquité en tout cas, il y a eu développement, parfois développement odieux pour notre sensibilité, je crois, une sensibilité bibliquement éduquée, développement odieux, chargeant essentiellement la femme de toute la faute, présentant l'homme comme une presque victime dans cette affaire. Il y a même eu encore d'autres enjolivures, si on peut appeler ça des enjolivures, mais je crois que c'est le grand poète et dramaturge Milton qui présente Adam mangeant le fruit par esprit chevaleresque pour ne pas laisser la femme toute seule dans le mauvais pas où elle s'est mise. Et, alors, je crois que ces développements sont des développements que le texte ne cautionne en aucune manière. Le texte, bon, je le reconnais, n'est pas très explicite. Il ne nous explique pas le sens, pour toute la doctrine, du fait que la femme a été tentée la première, et la première a mangé du fruit. Moi, je crois que l'idée de faiblesse peut difficilement être écartée. Elle me paraît assez naturelle. Lorsqu'on lit ce texte, il me semble que le diable est bon stratège et qu'il y a en effet tout à présumer qu'il s'est attaqué au lieu le plus faible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la nature de la femme soit plus faible. Car il suffit de considérer que la femme n'a pas été présente au moment de la conclusion de l'alliance, de 2 versets 16 et 17, que ce n'est pas elle qui a entendu directement de Dieu les commandements, pour comprendre que de ce fait même, à cause de son rapport indirect avec les commandements premiers, elle était plus vulnérable à la tentation. Ce caractère indirect du rapport est déjà dans le récit une faiblesse. Et donc le récit ne nous autorise pas à en supposer d'autres. Bien sûr, on peut toujours tout supposer, mais le récit n'en dit rien, ne nous y autorise pas. Donc l'idée de faiblesse, moi je la retiendrai, mais je ne pense pas que le texte nous permette d'extrapoler, de développer à ce propos en ce qui concernerait la nature de la femme. Un autre aspect de la manière dont le texte nous est raconté me semble être le suivant, c'est celui sur lequel j'aime mettre l'accent, c'est que c'est parce que les choses se sont passées comme ça, dans l'ordre qui nous est rapporté, que ni l'homme ni la femme ne peuvent se décharger de leur culpabilité devant Dieu à propos du péché. Imaginez que ce soit passé autrement. Que ce soit l'homme qui ait péché le premier. Alors là, vraiment, je crois qu'on n'aurait pas pu empêcher la femme de se considérer comme victime. L'homme avait entendu les commandements, l'homme avait reçu cette vocation particulière d'autorité. Si celui qui avait été tenté le premier et qui avait mangé, alors vraiment la femme aurait apparu dans le récit, non pas comme complice, mais comme simple victime. Mais dans la situation que nous avons, alors les torts sont vraiment communs. Puisque justement ce n'est pas la femme qui avait reçu cette vocation plus particulière d'autorité et qui avait entendu directement les commandements du Seigneur, la rupture avec Dieu n'intervient que quand l'homme a mangé. Il n'est pas dit, elle en mangea et ses yeux s'ouvrirent. Non, elle en mangea. Apparemment, rien ne se passe encore. Elle en donna à son mari avec elle, il en mangea, et alors leurs yeux s'ouvrirent. Ce qui me semble montrer clairement quelle est, aux yeux de la Bible, la responsabilité de l'homme dans cette chute. Chose que d'ailleurs l'apôtre Paul confirmera dans Romains 5. Je pense que nous ne reviendrons pas tellement sur ce passage quand il dit c'est par un homme que la mort est entrée dans le monde. Que le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. C'est par un homme, dit l'apôtre Paul en Romains 5. Donc, vous voyez, la présentation qui nous est faite empêche ces mauvaises accusations des autres pour se disculper que précisément on trouve dans la bouche de l'homme et de la femme lorsqu'ils sont interrogés. L'homme précisément essaie de faire passer la faute sur le compte de la femme. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et même, il suggère que c'est la faute de Dieu un petit peu, que tu as mise auprès de moi. Mais précisément, la structure du récit l'interdit cela.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que, tout à fait au début, Ève n'avait pas la même situation à l'égard de son mari qu'après, puisque la condamnation qui est faite après, ton mari dominera sur toi.
Ah, nous allons y arriver, hein.
Comment ?
Non, ça n'a pas été dit, bien sûr, mais nous allons y arriver. Hein. Je vous ai dit, c'est la deuxième donnée qu'il nous faut commenter, puisque celle se trouve à la fin, dans la deuxième partie de ce chapitre 3. Ce que j'ai établi, enfin, en tout cas à mes yeux, c'est que l'idée d'autorité, mais qui dit autorité ne dit pas encore domination. L'idée d'autorité est présente dès Genèse 2, dès avant la désobéissance, la perturbation des rapports que la désobéissance entraîne. Ah, c'est ce que je viens d'essayer de démontrer pendant toute la première partie de l'heure, monsieur Berger. Du fait que l'homme donne le nom, il me semble.
Ah oui, c'est ça. L'apôtre Paul parle de l'homme, mais est-ce que c'est l'homme en tant que masculin ? Est-ce que, en général, souvent, on emploie le terme homme pour désigner l'humanité ?
Oui. Dans Romains 5, il n'emploie pas le mot qui désigne plus spécialement l'homme masculin. C'est simplement anthropos qu'il emploie, qui veut dire homme, être humain. Mais comme il dit un, ça ne peut pas s'appliquer là à la femme. Il aurait dit par une femme, certainement, s'il avait visé Ève dans Romains 5. Lorsqu'il dit un homme, d'ailleurs, il parle d'Adam dans la suite du texte. Donc c'est bien. L'homme masculin dans le récit, qui est visé dans Romains 5. Il y a un autre passage, mais nous allons le voir plus tard. Il y a un autre passage qui souligne que la femme a péché la première. C'est un Timothée 2. Ça, nous allons y revenir. Mais pour l'instant, je vous fais remarquer ce que Romains 5 souligne, c'est qu'il est impossible à l'homme de se disculper. C'est lui dont la faute a déclenché la catastrophe. D'après le récit de Genèse 3, d'après le commentaire de Paul en Romains 5. Donc, en ce qui concerne ce premier point, l'ordre dans la faute, il me semble que nous avons là une interprétation satisfaisante, sans le droit de beaucoup extrapoler sur la faiblesse de la femme. Maintenant, en plus de cela, mais je vous confesse que je le dis surtout à cause de ce que Paul commente en 1 Timothée 2. En plus de cela, je suis disposé à dire qu'il y a quelque chose de significatif dans le renversement de l'ordre, quand même. Le fait que dans Genèse 2, c'est ce que Dieu fait, ce soit d'abord l'homme et la femme créée ensuite, alors que dans Genèse 3, ce que le serpent provoque, c'est d'abord la femme et ensuite l'homme. Il me semble que c'est quand même significatif, mais si je n'avais que la Genèse, j'oserais pas appuyer. Je vous le confesse, ce serait porté à dire, oui, il y a peut-être un sens là, mais peut-être pas. Ce qui me porte à le dire, c'est que je crois que c'est l'avancée de Paul dans 1 Timothée 2. Ça, nous y reviendrons plus tard. Donc, je vous signale simplement cette pensée comme ça en marge au stade où nous sommes parvenus. Et j'en viens alors à la formule du verset 16, surtout la deuxième partie de ce verset 16, à la sentence que Dieu prononce. Vers ton mari te portera ton élan, mais lui dominera sur toi. Alors, en ce qui concerne ce passage, on peut d'abord souligner que le mot employé est un mot rare. Je l'ai traduit « élan » parce qu'il semble que ce soit le sens le plus exact. Il est rare dans l'Ancien Testament, donc on ne peut pas cerner le sens avec une entière précision d'une manière indiscutable. Mais...